13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, je reçois Jean-Gabriel Cause, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe Robichon.
Voilà, vous avez un nom qui porte quasiment le physique de votre région.
C'est vrai, oui, Cause, effectivement.
Cause,
oui,
voilà.
Aveyronnais, fier de l'être.
On parlait justement de votre région. L'Aveyron, magnifique région.
Ah ouais, je conseille à tout le monde d'aller en vacances. C'est très varié entre les gorges du Tarn, avec le pont de Millau, bien sûr, et puis
sublime.
Rodez.
Ouais.
Moi, je suis de Rodez, donc le musée Soulages. Qui n'a pas vu le musée Soulages n'a pas.
Il y a la cathédrale à Rodez et il y a le musée Soulages.
Absolument.
Bien. Alors, vous êtes écrivain et designer et vous publiez L'algorithme du cœur aux éditions Flammarion. Alors, l'algorithme du cœur, est-ce qu'on parle du cœur du 44e président des États-Unis?
Entre autres, effectivement. Donc le 44e, je vous laisse faire le calcul si vous pensez que vous savez que Trump est le 45e, donc vous voyez qui c'est.
Ben ouais, c'est Barack Obama.
Absolument.
Dans votre livre, Michelle et les filles ont disparu.
Oui, oui.
Michelle Obama et les filles, qui sont quand même très présentes dans la vie de Barack Obama, elles sont zappées.
En fait, je ne voulais pas trop rentrer dans la vie des Obama. Ce qui m'intéressait chez Barack Obama, c'est son côté prix Nobel de la paix. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est un livre sur la paix, sur le futur, sur le monde qui, je l'espère, sera un monde de paix grâce aux machines. En fait, c'est l'anti-Terminator.
Bon, ouais, voilà. Et vous êtes très peu finalement intéressé au 45e président.
Non, là aussi, je voulais vraiment pas distraire mon lecteur avec l'actualité. C'est de la légère prospection sur ce que j'espère qu'il va se passer dans quelques années. Donc, je voulais vraiment pas rester là-dessus. Je m'en sers comme matériau, mais c'est pas le centre de mon propos.
Vous êtes mis dans la peau d'une héroïne qui s'appelle Justine Roufiac.
Oui.
Pourquoi une héroïne et pourquoi ne pas vous être mis dans la peau de Thomas ou par exemple de quelqu'un d'autre?
C'est peut-être mon côté féminin, je sais pas, je trouve que c'est...
Vous voulez qu'on en parle?
Peut-être que j'adorerais être une femme au fond de moi, j'en sais rien. Je suis fasciné par les femmes, donc je préfère me mettre dans la... Voilà, quand j'écris, je me mets dans la peau d'une femme. C'est la première fois, c'est mon premier roman en tant que... dans la peau d'une femme et j'adore en fait.
Justine, alors elle est hackeuse.
Oui.
Et vous êtes immergé dans l'univers des hackers pour écrire ce livre. Mais pas que des hackers, hein, puisque vous avez revu les 69 épisodes du Lieutenant Colombo.
C'est vrai.
Et pourquoi, qu'est-ce qui évidemment est intéressant dans les épisodes de Colombo?
Ce qui est intéressant dans les épisodes de Colombo, c'est marrant que vous le preniez par là, le livre, c'est vraiment un tout petit détail, c'est que ce sont une succession d'indices, de petites choses que l'on peut voir au début, mais que l'on ne voit pas forcément, et qui amènent la révélation à la fin. Et la révélation, c'est toujours... Enfin, le lieutenant arrive toujours à trouver qui est le coupable, donc la trame est toujours exactement la même, mais on part de petits indices, de signaux faibles, et dans mon livre, il y a énormément de signaux faibles qui nous disent quel va être peut-être le monde qui nous attend, et c'est ça qui m'intéresse.
Il y a des signaux faibles, sauf que dès le départ, dans Colombo, on sait qui est l'assassin. Et qu'à la fin, il est amené à avouer.
Absolument. Et là, c'est mon Internet, parce qu'on n'a pas encore employé ce mot, mais mon livre, en fait, pour que les auditeurs comprennent.
Il parle d'Internet? Moi, je crois qu'il parlait d'ARPANET.
ARPANET, qui est le nom d'origine d'Internet. C'est-à-dire, quand ça a été créé par des universitaires américains, ils appelaient ça ARPANET. Et ARPANET est devenu Internet. Et donc, mon histoire, en fait, c'est ARPANET ou Internet, qui se découvre un instinct de survie quand les humains commencent à vouloir s'autodétruire et qui ne veut pas mourir et qui donc va détourner des missiles nucléaires qui sont dans les airs. En fait, en gros, c'est Nord-Coréens et Américains qui jouent avec leur pétard nucléaire et Internet qui, au centre de tout ça, ne veut surtout pas voir le monde mourir parce que s'il n'y a plus d'humains, il n'y a plus d'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'Internet. Et il meurt. Donc, Internet va détourner ses missiles nucléaires. Et personne ne comprend exactement comment c'est possible. Qui a pu détourner ces missiles? On se demande si c'est des hackers, justement. Est-ce que ce sont les Anonymous dont on parle souvent? Est-ce que ce sont les GAFA, etc.? Non. On va découvrir que c'est Internet et c'est surtout Justine, l'héroïne dont vous parlez.
Voilà, qui vient de s'installer à New York. Elle est hackeuse.
Elle est hackeuse professionnelle. Elle vient de perdre un enfant. Et elle se réfugie un petit peu dans le travail et par le plus grand des hasards en essayant de hacker le site de l'armée américaine, parce qu'en fait les hackers se font souvent payer, quelque part les grosses boîtes les incitent à venir essayer de pirater leur propre réseau et s'ils arrivent à pirater ces grosses entreprises, ils sont payés des fortunes pour venir colmater les brèches qu'ils ont réussi à trouver. Et donc elle essaye de pirater le serveur de l'US Army et elle se retrouve en fait en parallèle avec Internet qui lui-même va pirater ce serveur pour détourner les missiles et c'est comme ça qu'elle va entrer en contact avec Internet et ça va être un petit peu sa maman, elle va faire son éducation. Parce que mon Internet, il n'a aucune intelligence émotionnelle. Il n'a pour l'instant qu'un seul instinct de survie et il se sent coupable. C'est pour ça qu'on parlait de Colombo tout à l'heure. Donc il se dit, je suis coupable.
Il a un sentiment de culpabilité. Alors c'est bon, ça. Là, vous allez vite finalement. Qu'est-ce qu'elle cherche elle en essayant de pénétrer et de hacker un des sites les plus sécurisés au monde?
Alors, comme tous les hackers, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de hackers. Ce sont des personnes brillantissimes, très intelligentes, et en même temps qui ont un ego assez fort entre eux. Et c'est à celui qui arrivera à avoir le fait d'armes le plus important. Et c'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Chaque fois qu'ils se présentent, ils disent, lui, c'est celui qui a réussi à rentrer, qui a craqué la PlayStation. Lui, c'est celui qui a craqué, etc., etc. Donc, c'est vraiment une carte de visite pour eux. Donc, tous les hackers s'attaquent à des montagnes comme celle-là. Petite parenthèse qui peut intéresser vos auditeurs, c'est que nos ordinateurs sont ultra vulnérables. Et l'un des slogans préférés des hackers, c'est « My other computer is your computer ». Notre ordinateur, c'est votre ordinateur. C'est-à-dire qu'eux, sans exagérer, en un quart d'heure, ils sont sur votre ordinateur. Donc,
ceci dit, il y a des programmes qui existent pour craquer les mots de passe.
Oui.
Mais quand elle veut craquer le mot de passe, justement, de ce site spécifique, les programmes n'en arrivent pas à bout. Et c'est parce qu'elle est intelligente et qu'elle fait preuve de l'intelligence humaine qu'elle arrive à répondre à la question de savoir comment faire pour entrer dans le site.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle est humaine.
Donc c'est-à-dire que finalement, là, elle est plus forte que la machine et plus forte que tous les programmes.
Sachant que la machine a réussi à rentrer elle, également dans...
Oui,
dans,
niveau 1. Oui, enfin, la machine derrière, l'Internet.
Oui, l'Internet a réussi à rentrer puisqu'il a détourné les missiles nucléaires. Elle ne laissait pas de détourner les missiles, elle laissait de les visualiser simplement. Et c'est comme ça qu'elle rentre en contact avec lui, avec Internet. Mais en fait, pour l'instant, ça se passe entre humains. C'est ça qui est... On est en 2019, c'est les humains qui codent. Là où j'amène le lecteur dans ce livre, c'est que bientôt, ce ne seront plus les humains qui coderont quoi que ce soit, ce seront les machines toutes seules. On arrive à ce qu'on appelle la conscience artificielle ou l'intelligence artificielle forte, où on est en train de programmer les machines pour s'auto-programmer. Et on commence à plus rien comprendre. Et l'étape d'après, c'est que toutes ces machines...
C'est-à-dire comment ça, on commence à ne plus rien comprendre.
C'est-à-dire que, je vous donne un exemple tout bête, les cancers du poumon, pardon, les mammographies. Sur les mammographies, les radiologues voient des tâches et disent « Tiens là, c'est peut-être pas très bon, il y a peut-être un cancer, etc. » Toutes les mammographies ont été scannées et envoyées à une machine qui compile un petit peu toutes ces mammographies en disant « Là, il y a un cancer, là, il n'y en a pas. » Et aujourd'hui, la machine est plus fiable que l'humain pour dire s'il y a un cancer ou pas dans une mammographie.
C'est vrai, pour la mammographie, il y a une double lecture d'ailleurs, des radios pour justement écarter tous les risques de passer à côté d'une tumeur.
Mais avant la biopsie, voilà. Et donc des fois la machine voit une grosse tache noire, il y a une grosse tache noire sur la radio, et la machine dit non, il n'y a rien. Les radiologues disent mais c'est pas possible, il n'a pas vu qu'il y avait une tache, il y a forcément un cancer. Quand ils font une biopsie, il n'y en a pas. Donc on ne sait pas comment les machines arrivent à comprendre
mieux
que les humains. Et ces machines-là, en ce qu'on appelle le deep learning, commencent à s'auto-programmer, c'est-à-dire qu'elles se créent elles-mêmes leur code, leur langage informatique, et là, il n'y a plus un informaticien qui est capable de comprendre comment la machine se code elle-même. C'est ça qui devient intéressant. Donc, on est en train de se faire dépasser par la machine qui s'auto-programme. Et ça, on en est au tout début, mais quand vous savez qu'une boîte comme Alibaba a mis 15 milliards de dollars sur le sujet, vous doutez bien que ça risque d'aller assez vite.
Et là, on ne parle pas des Américains.
Non, là, on ne parle que des Chinois. Beaucoup d'intox entre Chinois et Américains. On ne sait pas trop qui est en avance sur l'intelligence artificielle forte. Ce qui est certain, c'est qu'elle arrive, et c'est-à-dire que la conscience de la machine est pour très bientôt. Certains disent, les plus optimistes disent 15 ans, les plus pessimistes disent 30 ans. Ce qui est certain, c'est que nos enfants auront à vivre avec des machines beaucoup plus intelligentes qu'eux.
D'accord. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans votre livre. Quelle définition vous donnez du mot intelligence ?
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, telle qu'on on l'a baptisé, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. En fait, c'est délocaliser notre cerveau. C'est-à-dire, est-ce que notre téléphone est intelligent aujourd'hui? Non. Notre téléphone stocke toutes nos données.
Il est performant.
Il a une mémoire, ouais. Il a tout ce que vous voulez, mais il n'a aucune conscience de lui-même. Deep Blue, qui a battu Kasparov aux échecs, ne sait pas qu'il a battu Kasparov aux échecs. Donc en fait, il n'a pas vraiment d'intelligence. C'est juste un programme bête, on va dire. Donc l'intelligence artificielle telle que on en parle tous les jours, en fait, c'est pas vraiment de l'intelligence, c'est plus des programmes plutôt intelligents, mais c'est pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence, elle arrivera le jour où la machine arrivera à comprendre ce qu'elle fait, où en fait, elle prendra du recul sur elle-même. Et c'est tout l'enjeu que l'on trouve dans tous les films de science-fiction, les Terminators, etc. Là, on est dans de la vraie intelligence artificielle. Elle n'existe quasiment pas aujourd'hui. On en est au balbutiement de cette intelligence artificielle.
Mmh. Donc là, effectivement, on n'est pas du tout dans ce qu'on peut imaginer. Même si votre livre est très rassurant, finalement.
Oui.
Parce que vous essayez de... Il y a un certain nombre de questions auxquelles vous tentez de répondre. On essaye toujours d'opposer l'homme à l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que finalement, c'est une question qui a un sens?
Je crois qu'elle a un sens fondamental. C'est-à-dire que si l'on sait que d'ici 20, 30 ou 40 ans, on aura des machines à côté de nous plus intelligentes que nous, avec un QI de plusieurs millions par rapport à nous, donc on ne pourra pas lutter. De deux choses l'une, ou ces machines vont vouloir nous détruire, et là c'est à peu près tous les films de science-fiction, ou ces machines vont cohabiter avec nous. Et moi, ce que j'espère, c'est peut-être naïf, mais j'y crois fortement, c'est que ces machines vont cohabiter de façon positive avec nous. Ces machines aussi brillantes vont régler tous les problèmes d'écologie, vont régler problèmes de malnutrition, de pollution, etc. C'est-à-dire qu'elles sont tellement brillantes, ces machines, elles seront capables de faire des choses tellement brillantes qu'on va leur confier à peu près tout. Et pour moi, elles n'ont aucune raison de vouloir nous détruire, parce que nous détruire, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire chercher le pouvoir. Mais si vous regardez bien dans la nature, le pouvoir, c'est le propre de l'homme. Il n'y a que l'homme qui cherche vraiment le pouvoir. Chez les animaux, le pouvoir, c'est simplement du pouvoir pour survivre. C'est-à-dire qu'un lion va vouloir un territoire et quelques femelles pour s'alimenter, etc. Mais il n'y a pas un lion qui se dit « je vais être le maître de l'Afrique ». Ça n'existe pas.
Alors pour vous, les machines n'ont aucun intérêt à vouloir prendre le pouvoir.
Non,
aujourd'hui.
De la même façon, est-ce que vous imaginez votre téléphone vouloir devenir le plus riche du monde ? L'argent, c'est une notion qui est purement humaine aussi. Le pouvoir aussi. Pour moi, le pouvoir, c'est une perversité qui est propre à l'homme. Jamais vous avez des dauphins qui ont une conscience aussi développée que nous. Les dauphins ne vont pas créer des armées de dauphins pour aller tuer d'autres dauphins. Ça n'existe pas. Il n'y a que les hommes qui créent des armées pour lutter contre d'autres hommes. Donc, nos travers, on pense que les autres intelligences vont les avoir. Mais il n'y a aucune raison que les intelligences artificielles fortes veuillent le pouvoir ou veuillent de l'argent, donc veuillent nous détruire. Je pense qu'on va pouvoir cohabiter et on va se servir de cette intelligence. En tout cas, je préfère être optimiste et me tromper qu'être pessimiste et avoir raison. Donc là, tout mon propos là-dessus, c'est de dire...
Mais est-ce qu'il y a deux discours qui s'opposent aujourd'hui?
Voilà, il y a deux discours et la plupart des discours, c'est plutôt pour dire que l'intelligence artificielle, ce sera une catastrophe pour l'humanité. C'est pas sûr.
Bien, on en parle ce matin à l'occasion de la publication de votre roman, Jean-Gabriel Coe, ça s'appelle L'algorithme du cœur et c'est aux éditions Flammarion.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À l'occasion de la publication du roman de Jean-Gabriel Coe qui s'appelle L'algorithme du cœur aux éditions Flammarion, on parle d'intelligence artificielle, mais subitement on découvre dans votre livre que l'ancêtre d'Internet a une conscience. En tout cas, c'est votre héroïne Justine qui le découvre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Internet a une conscience ?
Avoir une conscience, c'est connaître ses qualités, ses défauts, c'est en fait ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire en fait sortir de son cerveau et enfin pouvoir se regarder de l'extérieur. C'est savoir qu'on existe et essayer de s'améliorer. Cette conscience, par exemple, on travaille beaucoup là-dessus dans les voitures qui vont se conduire toutes seules, où on essaie d'inculquer ça aux voitures, que toute seule la voiture puisse, dans une situation qui n'a pas été programmée, prendre la bonne décision. Et pour ça, il ne faut pas simplement appliquer des algorithmes tout bêtes. Il faut être capable de faire un petit peu abstraction, capacité d'adaptation, en fait. C'est une des définitions, d'ailleurs, de l'intelligence.
Voilà. Alors, par exemple, Internet manque quand même d'un certain nombre de qualités. Il manque d'humour.
Oui, il n'en a absolument pas. En fait, quand Internet va détourner ses missiles nucléaires parce qu'il ne va pas vouloir mourir, il va se sentir coupable en se disant « mince, on ne m'a jamais donné l'ordre de détourner des missiles, moi je suis programmé pour répondre à ce que demandent les humains », donc il se sent coupable, mais il ne comprend pas si c'est positif ou négatif être coupable, donc il va regarder tous les Columbos, on en parlait.
Voilà, c'est un sentiment qui finalement il n'arrive pas à exprimer.
Exactement, et en fait il a une intelligence émotionnelle qui est très faible ou qui lui est propre, et là j'ai beaucoup travaillé avec des professeurs de médecine qui travaillent sur les autistes, en particulier les autistes Asperger, pour essayer de comprendre justement ces humains très très intelligents, beaucoup plus intelligents même que nous par certains côtés, qui ne nous comprennent pas. Et mon Internet, il est comme ça, il a ses propres sentiments,
c'est ce que vous dites, ça peut ressembler effectivement au profil des autistes Asperger.
Alors, les puristes diront que non, puisque c'est très particulier, puisque de toute façon, on ne peut pas comparer deux choses, une machine et un humain, mais en tout cas, dans la résultante, oui, c'est-à-dire qu'il ne nous comprend pas. Il se dit, mais pourquoi vous faites plusieurs millions de selfies par jour? Ça vous sert à quoi de vous prendre en photo? Des choses comme ça. Il ne comprend pas trop le monde dans lequel on est, il nous trouve absurde. Il se dit, mais vous dites que ma conscience est artificielle, mais est-ce que la vôtre ne serait pas un peu superficielle?
Pas d'humour, manque d'amour. Alors ça, par exemple, l'amour, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas.
Non, mais c'est quand même peut-être le sentiment ultime. Donc, Justine va justement faire son éducation, lui apprendre les sentiments, les émotions, les sentiments, pour que le jour où les humains, quand les humains vont réaliser qu'Internet a une conscience, beaucoup vont en avoir peur, beaucoup vont vouloir le contrôler. S'ils veulent le débrancher, là, il risque de se défendre avec son instinct de survie. Et s'il se défend, il peut nous détruire. Donc tout l'enjeu, c'est de faire de cet être balbutiant, donc de cet enfant Asperger, quelqu'un de le plus bienveillant possible. Donc elle va faire son éducation et essayer de lui apprendre l'amour, en particulier l'amour des humains, pour que le jour où il y aura une confrontation, il nous considère et ne cherche pas à nous détruire.
Voilà, Justine essaye de lui inculquer l'altruisme,
Manque de peau, alors je ne vais pas tout raconter.
Non, mais manque de peau, mais elle essaye, ça ne fonctionne pas.
Plus ou moins, parce qu'il est assez maladroit, mon Internet, il ne comprend pas très bien.
Mais je crois que même l'être humain aurait fait la même bêtise, finalement, en pensant que c'est ça qui rendrait les gens heureux, et ça ne les rend pas du tout heureux.
C'est possible, c'est un teasing, ce sera vers la page 200 à peu près pour vos auditeurs.
Vous êtes fort. Où on apprend que finalement, l'amour, c'est dû à une hormone qui serait responsable.
Oui, c'est intéressant ça.
Au nom complètement imprononçable.
Oui, je m'y risquerai pas. Mais en neurosciences, c'est passionnant de découvrir ce continent qui est notre cerveau.
Phényléthylamine. La phényléthylamine serait l'hormone responsable du coup de foudre.
Il paraît.
Ouais. Mais alors, on en trouve dans certains aliments. Donc, est-ce que si on se substante...
Chocolat, par exemple, je crois.
Entre autres, le fromage, le chocolat. Est-ce que si on se substante dans cette hormone, est-ce qu'on pourrait avoir un coup de foudre beaucoup plus rapide?
Peut-être.
Question qu'on peut poser aux célibataires, finalement.
Peut-être, effectivement. Le chocolat, il y a toujours un lien entre chocolat et amour. Donc peut-être que manger du chocolat peut aider à tomber amoureux.
Donc Internet, c'est la question qu'elle se pose. A-t-il une conscience? On se demande toujours, finalement, parce que c'est une question que les êtres humains se posent, hein, c'est à partir de quel moment la machine sera plus forte que nous. Et on parlait tout à l'heure de l'empathie, de toutes ces choses-là. Il y a toute une série de qualités dont on nous dit les soft skills aujourd'hui, oui. Dont on nous parle, qui sont les qualités que nous, êtres humains, devrons avoir pour pouvoir survivre dans l'environnement professionnel des prochaines années.
Oui, absolument. En fait, aujourd'hui, déjà, la machine est beaucoup plus forte que nous, déjà, au niveau de la mémoire. Est-ce que vous savez que Internet, la mémoire d'Internet, c'est 1000 milliards de fois l'ensemble de la littérature moderne. C'est-à-dire que Internet connaît tous les livres, mais il en connaît 1000 milliards de fois plus que tous les livres écrits de tous les temps en littérature classique. Ça, c'est une mémoire. Donc, on n'aura jamais sa mémoire, on n'aura jamais sa vitesse de calcul. Par contre, ce que nous avons, nous, alors j'allais dire les humains, mais pas seulement les humains, on se rend compte plus en avance que énormément d'espèces animales ont des émotions, que ce soit les dauphins, les poulpes, les pies, etc., etc. On se rend compte que plus on avance dans la compréhension de notre monde, plus on se rend compte que la conscience est partout.
Alors, il y a cette expérience qui est très connue sur les orangs-outans, par exemple.
Celle de la tâche, vous voulez dire?
Non, la question du masque.
Celle du masque, je l'ai...
On a mis un masque à un singe et il se regarde dans la glace.
Ah, ben c'est la même chose que la tâche, en fait.
Ah, c'est la même chose que la tâche, ouais, on appelle ça la tâche.
Ouais, en fait, on met une tâche sur le front d'un animal, on le met devant un miroir et on regarde si l'animal essaie d'enlever la tâche sur son front, ce qui veut dire qu'il a pris conscience
de lui-même,
que
de
c'est
son image.
Lui-même et que c'est son image. Et alors, il y a des espèces vraiment que l'on n'imaginait pas qui ont réussi le test. Vous avez les pies, par exemple, vous avez... je vais noter quelque part, je vous les retrouverai. Enfin, il y a énormément d'espèces animales qui ont cette conscience.
D'eux-mêmes.
Ouais. D'eux-mêmes, les chats, les chiens, bien sûr, la plupart des singes, etc. Donc, qui ont conscience d'eux-mêmes. Et pour l'instant, Internet n'a pas, enfin, les ordinateurs n'ont pas encore conscience de lui-même. Votre téléphone n'a pas encore conscience que c'est un téléphone. Mais ça va arriver.
Qu'est-ce que c'est que la légende de l'échiquier de Sissa ? Parce qu'on parlait d'échecs tout à l'heure.
Ah, ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Vous savez, vous avez entendu parler des données qui doublent en capacité tous les deux ans. C'est-à-dire que nos ordinateurs sont beaucoup plus puissants en permanence. Et cette légende, en fait, c'est... j'essaie de vous la raconter.
C'est pas récent.
Non, c'est très vieux.
Ouais, c'est avant l'ordinateur.
Absolument. C'est un sultan qui s'ennuyait et qui a demandé à un de ses sages de lui trouver un jeu qui pourrait le distraire. Et il lui a appris les échecs. C'est formidable, les échecs. Comment est-ce que je pourrais vous remercier de m'avoir fait découvrir les échecs? Il dit, écoutez, c'est pas compliqué. Vous mettez un grain de riz sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, etc. Vous doublez le nombre de grains de riz et je serai ravi. Et le sultan dit, vous voulez que ça? Bon, bah, écoutez, avec grand plaisir. Ce que le sultan ne savait pas, c'est que faites le calcul, 1 plus 2 plus, etc. jusqu'à 64 fois, c'est plus de grains de riz que l'humanité n'en produira jamais. Donc le sultan a été ruiné. Et l'informatique double également très rapidement. Et cette notion de doubler les capacités informatiques peut conduire à la perte de l'humanité, comme Sissa a conduit à la perte de ce sultan. Donc on n'imagine pas à quel point le monde numérique progresse. C'est incroyable, c'est hallucinant. Quand Deep Blue, en 1997, a battu Kasparov aux échecs, ça a été une révolution, personne ne pensait que ça allait arriver si vite. Mais tout le monde s'est dit, ok, on est capable de gagner aux échecs, mais il y a un jeu où on ne gagnera jamais, c'est le jeu de Go. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de possibilités au jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Donc on s'est dit, il n'y a pas une seule machine qui sera capable de calculer tout ça.
Ouais, ouais.
Parce qu'on a besoin d'intuition. Et ce mot est important, le mot intuition. Même pas 20 ans plus tard, Lee Sedol, champion sud-coréen de jeu de Go, a perdu contre AlphaGo. Et là, ça a été encore une véritable révolution parce que AlphaGo a commencé à faire preuve d'intuition. C'est-à-dire qu'il n'a pas calculé toutes les possibilités. Il a commencé à faire preuve d'intuition et c'est comme ça qu'il a battu Lee Sedol. Et ça, personne ne pensait que ça pouvait arriver si vite. Mais le choc ultime, c'est AlphaGo 0. AlphaGo 0, c'est la même chose qu'AlphaGo, c'est-à-dire c'est un logiciel très puissant, mais à qui on n'a donné aucune partie de référence. On lui a simplement donné les règles du jeu de Go et on lui a donné ce qu'on a parlé tout à l'heure du deep learning, c'est-à-dire qu'on lui a dit « apprends de tes erreurs, joue tout seul et apprends de tes erreurs, comme un enfant ». Donc AlphaGo 0 ne connaissait que les règles du jeu de Go. Il a joué contre AlphaGo, qui donc lui-même a battu Lee Sedol. En 3 jours, ils ont fait 14 millions de parties et AlphaGo a battu AlphaGo 0, 14 millions à 0. À partir du 3e jour, AlphaGo 0 a commencé à battre AlphaGo et n'a plus jamais perdu. C'est-à-dire que l'auto-apprentissage en seulement 3 jours a créé quelque chose où il n'y a pas un humain qui comprend quoi que ce soit aux parties, même les plus grands maîtres, ils ne comprennent absolument rien aux parties entre AlphaGo et AlphaGo 0. Là, on parle que de 3 jours d'évolution. Donc imaginez ce que je vous dis là, c'était il y a 3-4 ans. Donc à quelle vitesse le monde artificiel est en train de progresser. C'est pour ça qu'on va arriver très vite à la conscience.
Je croyais que le cerveau, c'était le plus grand ordinateur humain, enfin du monde d'ailleurs.
Oui, c'est pour l'instant le nôtre, en tout cas celui qui procure peut-être le plus d'émotions, mais il n'a pas du tout la capacité de mémoire ni de calcul de n'importe quelle machine.
Qu'est-ce que vous avez écouté en écrivant votre livre ?
Moi j'écoute beaucoup de musique classique. J'aime bien, ça me détend, donc je me laisse bercer, je suis très piano en fait.
Bon, en tout cas, la bande originale de votre livre est plutôt datée, c'est pas jeune.
Oui.
Ouais, des chansons qui sont intemporelles, classiques, on va écouter Etta James.
Ah ouais, j'adore.
Pourquoi alors ?
Alors ça c'est mon héroïne, c'est-à-dire que quand je me mets dans la peau de mon héroïne, ouais. Je sais pas pourquoi, je pense qu'elle aime le jazz, je me suis dit voilà, j'avais envie d'une héroïne qui aimait le jazz, donc quand je suis dans sa peau, je suis jazz, et quand je suis sur internet, je suis plutôt musique classique.
I'd rather go blind, je préférerais être aveugle.
Something told me it was over. what you need me, babe. Most of all, I just don't wanna be free, no.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Gabriel Gauss, qui est notre invité, ce matin, qui est notre invité, et qui publie L'algorithme du cœur. C'est un roman aux éditions Flammarion. À quelle famille appartient votre roman? C'est un roman d'anticipation?
De très légère anticipation, mais après, je sais que ça peut faire peur à tous ceux qui n'aiment pas la science-fiction. Donc, c'est quelque chose qui me semble. Enfin, je voulais essayer de le faire le plus réaliste possible. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous arriver demain. Enfin, peut-être.
Vous êtes un geek?
Pas du tout. Pas
donc,
du tout.
En fait, vous avez vraiment enquêté pour écrire votre roman, c'est
exactement.
Ça
exactement. Et je crois que j'ai la chance d'avoir ma crainte avec un roman comme celui-là, comme on parle d'Internet, de numérique, etc. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouh là là, c'est vraiment pas pour moi, ces trucs-là, ça m'intéresse pas ». Comme j'y connaissais pas grand-chose, c'est très simple à lire. Et ce qui fait que
c'est pour ça que j'ai tout compris, enfin, presque.
Non, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment de la vulgarisation. C'est-à-dire que si moi je comprends, je pense que tout le monde va comprendre. Et donc, mon bouquin s'adresse vraiment aussi, et peut-être même en priorité, j'en sais rien, mais aux personnes qui, a priori, ne sont pas intéressées par le numérique. Donc, je vais vous familiariser avec ce monde de l'intelligence artificielle. Pour beaucoup, déjà, ces deux mots, mis côte à côte, c'est presque un gros mot de parler d'intelligence artificielle. On dit, oulala, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et alors que c'est notre monde, et c'est surtout le monde de nos enfants, donc c'est intéressant de bien le comprendre.
Est-ce que vous avez réussi à répondre à cette question? L'intelligence artificielle est-elle la meilleure ou la pire des choses qui arrivent et qui soient arrivées à l'humanité?
Et personne n'a encore répondu. C'est Stephen Hawking qui a dit ça parce que...
Alors, il faut présenter Stephen Hawking, qui était-il?
Un grand physicien.
Qui est décédé maintenant.
Ouais. Qui est décédé, vous vous rappelez, tout le monde, on a cette image de ce physicien qui était en fauteuil roulant. Et d'ailleurs, il y a un très beau film qui est sorti sur cet homme-là et qui était très intéressé par le sujet et qui se dit vraiment, l'IA, ça va vraiment bouleverser notre monde. Vous avez aussi Elon Musk, le patron de Tesla, qui dit que pour lui, c'est peut-être la chose la plus dangereuse qui ait jamais été inventée par l'homme, loin devant le nucléaire. Et il continue en précisant, en disant, vous laisseriez pas votre voisin construire une bombe atomique dans son garage. Pourtant, on laisse n'importe qui construire de l'intelligence artificielle forte. Donc, il a certainement raison. C'est-à-dire que le bouleversement est absolument total. Tous les grands en parlent. Bill Gates, c'est pareil, a dit, vous n'imaginez pas à quel point notre monde va être changé dans quelques années. Donc, regardez déjà l'évolution qu'on a pu avoir en 20 ans, ou 25 ans. Il y a 25 ans, on n'avait pas d'email, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de GPS, on n'avait rien.
Et donc, on n'avait pas rien.
On avait peu, en tout cas.
On savait lire des cartes routières.
C'est ça.
Vous voulez savoir. Donc, on n'avait pas rien.
Imaginez
et avant, on avait des boussoles.
Imaginez un jeune de 15 ans à qui vous enlevez son téléphone portable, internet, etc. Donc,
il peut même plus se déplacer dans Paris. Voilà. Il sait même plus lire un plan.
Donc, regardez, en 25 ans, comme notre monde a changé, et d'après ces grands hommes, le changement va être encore plus important dans les 25 prochaines années.
Je sais pas, moi, on parle de 5G. Je crois que je suis à la 3G, alors.
Ouais, mais ça, c'est juste du flux de données. Ça reste faciliter notre travail. Là où on va être vraiment fort, c'est quand on va avoir ces machines-là à côté de nous. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une nouvelle espèce vivante. C'est ça le vrai truc, c'est ça le vrai enjeu. Et effectivement, comme dit Stéphane Hawking...
Ou pas, c'est, encore une fois, c'est la question de savoir, c'est est-ce que ça sera vivant?
Ben,
parce que, à part, tant qu'elle n'est pas dotée de conscience, de toute façon...
Alors, la vie... plus on progresse, enfin, là j'ai eu la chance de discuter avec quelques biologistes, ils vous disent, mais vous n'imaginez pas à quel point la vie est présente partout. Ok, il y a des problèmes de biodiversité, on est en train de tuer énormément de grandes espèces. Mais vous savez qu'il y a 10 000 milliards de bactéries. 10 000 milliards d'espèces de bactéries. 10 000 milliards. Mmh. Vous vous rendez compte ? Donc, la vie foisonne partout. Il y a 10, c'est un chiffre complètement dingue, il y a 10 fois plus de bactéries dans votre corps humain que vous n'avez de cellules. Vous avez plus de 10 fois plus de bactéries sur vous que de cellules. Donc, la vie est absolument partout. Et la vie a un seul point commun, toutes les formes de vie, c'est l'instinct de survie. Donc, dès lors que, donc déjà, la vie se crée de façon beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait imaginer, beaucoup plus spontanée que ce qu'on pouvait imaginer, puisqu'on n'a plus forcément besoin d'oxygène. On a découvert de la vie dans des failles proches de volcans. Il y a de la vie qui existe dans des lacs gelés depuis des siècles, etc., etc. Donc, la vie se crée partout. Donc, on n'en est pas loin que cette intelligence artificielle, qui pour l'instant ne comprend rien, arrive à se comprendre, et ce jour-là, elle voudra absolument survivre, et le jour où elle voudra survivre, elle sera vivante. Mmh.
Est-ce que l'intelligence artificielle remplacera un jour l'intelligence amoureuse ?
J'espère pas, même
parce que maintenant, il y a des algorithmes, donc en fait, les gens peuvent se rencontrer grâce à des outils de matching.
Ouais, il paraît que ça marche bien. Moi, je trouve ça presque un petit peu dommage. Enfin, j'espère qu'il y a encore beaucoup. Enfin, la spontanéité me semble plus intéressante, mais pour des personnes qui sont seules, d'avoir cet outil-là pour ne pas rester seules, formidable. Donc, on ne peut que s'en réjouir si on arrive à trouver des bonnes personnes qui nous matchent, effectivement.
Mmh. Pourquoi avoir pris la forme presque d'un roman policier pour parler de ça ?
Parce que mon propos est doux.
C'est presque un très bon scénario de film.
Hein. Je l'espère. Ouais. J'espère qu'un jour on en a.
Si Netflix nous écoute ce matin, je pense que c'est le moment. Hein. Oui, allez-y.
Oui, oui, s'il vous plaît, messieurs de Netflix, lisez L'algorithme du cœur. Il y a quelques producteurs qui s'y intéressent. Donc j'espère qu'un jour, peut-être, ce roman sortira en film. Non, parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est de vulgariser des données scientifiques, mais sans être, si vous me permettez, entre parenthèses, sans être embêtant. Allez, ça allait commencer par un CH, ce que je voulais vous dire. Donc, j'essaie de mettre de l'humour, j'essaie de mettre une belle histoire qui fait qu'on a envie de savoir où on va. Et je suis très heureux dans beaucoup de mes lecteurs me disent on l'a ouvert et on l'a pas lâché, je l'ai lu en 3 jours. Enfin, voilà. Donc, je veux qu'on apprenne des choses, mais je veux surtout qu'on passe un très bon moment et un moment positif en se disant le monde qui nous attend, c'est peut-être pas forcément un monde aussi terrible que ce qu'on peut imaginer.
Alors, c'est vrai que c'est le mois du Ramadan, qu'on utilise beaucoup le miel, par exemple, pour faire de la pâtisserie pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que c'est qu'un pot de miel en termes d'informatique ?
Un pot de miel, en fait, c'est...
Ou un honeypot.
Un honeypot. En fait, c'est arriver à piéger des informaticiens. C'est des faux sites pour eux. C'est-à-dire que quand ils vont essayer de hacker un site, on va leur faire croire qu'ils ont réussi. En fait, c'est juste pour les attraper. Donc, en essayant de récupérer leur adresse IP, donc on leur fait croire qu'ils sont rentrés chez nous. En fait, c'est nous qui sommes rentrés chez eux. Donc, c'est ils sont comme une mouche qui s'est fait prendre dans le pot de miel.
Enfin, c'est un leurre, quoi, finalement.
Mais c'est plus qu'un leurre, c'est-à-dire c'est en même temps essayer de comprendre qui est là. C'est-à-dire que c'est une contre-attaque invisible des systèmes informatiques. Donc, c'est quelque chose de passionnant, mais la plupart des hackers sont eux-mêmes ceux qui ont créé ces honeypots. Donc, ils les voient venir, donc ils font des faux pots de miel de l'autre côté, etc., pour repartir. Enfin bon, c'est très compliqué, très passionnant. Chaque fois que j'essayais de comprendre, j'ai eu des discussions longues avec des hackers. Au bout de 2 phrases, je comprenais plus rien. Donc, je faisais oui. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des pots de miel partout, à peu près toutes les grosses.
C'est presque un jeu, donc il en faut moins.
Oui, parce que c'est les mêmes qui sont des deux côtés qui essaient d'attaquer et qui défendent. Donc, en fait, ils jouent entre eux, ils jouent aux échecs.
Comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de parler à une intelligence artificielle plutôt qu'à un être humain ? Parce que peut-être que vous êtes nombreux à aujourd'hui rentrer dans des systèmes de chat, hein, oui. et finalement vous avez quelqu'un qui vous répond, mais ça peut être une machine, et de plus en plus c'est une machine.
Et c'est un vrai problème.
Est-ce qu'il y a une technique pour les démasquer finalement ?
La seule technique que l'on ait trouvée aujourd'hui, c'est d'obliger ces machines à vous le dire. J'invite vos auditeurs à regarder Google Duplex qui vient de sortir. Google Duplex, c'est quoi ? C'est le nouvel assistant vocal de Google où vous allez dire à votre téléphone, vous allez juste appuyer sur une touche en lui disant « réserve le restaurant que j'aime bien la semaine prochaine ». Et c'est votre téléphone qui lui-même va appeler, va se faire passer pour un humain en disant « bonjour, je voudrais réserver une table pour 4 personnes », etc. Et en face, c'est impressionnant quand on l'écoute. C'est-à-dire que la machine, elle fait semblant d'hésiter. Quand le restaurateur lui dit « écoutez, il n'y a pas de place à 13h », il dit « bon, ben tant pis, ben, écoutez, est-ce que midi 45 c'est possible ?»« Oui, bon, ben c'est parfait ». Et la machine va envoyer un un email à son propriétaire en disant « Je t'ai réservé une table pour 4 personnes à 12h45 ». Ça a été tellement bluffant, cette démonstration de Google, Google Duplex, que des gens se sont insurgés en disant « Mais c'est pas possible de laisser des machines se faire passer pour des humains ». Donc Google Duplex a changé un petit peu son algorithme pour faire en sorte que chaque fois qu'elle appelle des humains, elle dit « Bonjour, je suis Google Duplex et je vous appelle de la part de... Philippe Robichon pour vous dire que je voudrais réserver une table ou un billet de train, etc. etc. Donc on, honnêtement, on n'a aucune façon de le... Écoutez Google Duplex, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est vraiment, leurré. C'est pas possible. Donc la seule façon d'imposer à cette intelligence artificielle, on est obligé de lui dire, de dire, tu commences ta conversation en disant « Je suis une IA et je ne suis pas un humain ».
D'accord. Donc là, il faut être transparent.
Il faut être transparent.
Mais, sachant, non, mais ça, c'est la loi qui peut l'imposer, finalement.
Il n'y a que la loi qui peut l'imposer, mais c'est certain que certains ne le feront pas.
Ouais, puisque certains chargés de clientèle aujourd'hui, ou enfin, aux serveurs vocaux interactifs, comme on les appelle aujourd'hui, peuvent être remplacés par ces agents d'intelligence-là.
Oui, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la loi impose que, quand on parle à une IA, elle se présente comme IA.
Mmh. Bon, Internet, c'est une bonne bactérie, alors, puisqu'on parlait des bactéries tout à l'heure.
Moi, je pense que c'est quelque chose d'absolument formidable, parce que ça va nous, on va avoir devant nous le plus grand scientifique de tous les temps, le plus grand philosophe de tous les temps, le plus grand penseur de tous les temps. Vous imaginez, il va avoir une culture générale totale, il sera tout sur tout. Il y a peu de chances, puisqu'il va être tellement intelligent qu'il s'abaisse à des petites considérations mesquines, comme certains humains, de chercher le pouvoir ou l'argent. Il va être bien au-dessus de tout ça. Donc, je pense que ça va être quelque chose de formidable. Peut-être que sur certains trucs, il va nous dire, bon, les humains, là, vous êtes pas très raisonnable d'avoir des bombes nucléaires, donc ça, je vais vous les supprimer. Mais quelque part, pas plus mal.
C'est ce qui se passe, effectivement, c'est ce qui se passe dans votre livre.
C'est voilà. Ce qui se passe dans mon livre. Donc, peut-être que sur certains points, on va quand même pas forcément apprécier qu'il y ait cette intelligence à côté de nous qui nous dit, ça t'as droit, ça t'as pas droit. Mais après, ça va être un puits de science et ça va être absolument formidable. Si vous, enfin, en tout cas, toutes les grosses boîtes, les GAFA, là, Google, Apple, Facebook et Amazon et les équivalents chinois, s'ils dépensent autant d'argent là-dessus, c'est qu'ils veulent créer cette intelligence. Après, ils veulent pour l'instant la garder pour eux. Ça, c'est notre réflexe purement humain de vouloir gagner de l'argent. Ils veulent la garder pour eux, mais ils n'y arriveront pas. Et à un moment, elle va s'échapper. Il y a DeepMind, par exemple, de chez Google. Cette intelligence artificielle, ils ont mis un gros bouton rouge. C'est-à-dire que si on sent que ça dérape, on peut l'éteindre. C'est ridicule. On l'éteindra une fois, mais pas 10. Donc, de toute façon, cette IA, elle va échapper à notre contrôle. Mais pour moi, et j'ose espérer avoir raison, de toute façon, on n'a pas le choix, elle va être quelque chose de formidable pour les humains.
Bon, on va faire un bond en arrière de 60 ans, un peu plus de 60 ans. On va écouter Elvis Presley. Alors là aussi, ça fait partie des...
Ah, oui.
D'abord, ça fait plaisir d'écouter Elvis Presley, qu'on écoute de moins en moins, mais quand même, qui a été un artiste d'un demi-siècle. Hein. Et la chanson s'appelle New Orleans. Pourquoi ?
Parce que dans mon livre, justement, voilà, c'est ma Justine qui est très jazz et qui écoute Elvis.
Oh, c'est pas du jazz, c'est du rock, c'est dans cette voix.
Ouais, rock jazz. Non,
ouais, c'est du rock jazzy. Ouais.
Rock jazzy. On parlait pas de rock encore. Si Elvis, on parlait déjà de rock.
Ah bah oui.
Ouais. C'était déjà rock.
Ouais,
ah,
ouais, non. Ouais, Elvis, okay, c'était
pardon,
le rock.
Autant pour
c'était
moi.
Le King, c'était un rocker.
C'était un rocker.
Jean-Gabriel Causse, votre livre s'appelle L'algorithme du cœur aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Philippe Robich, c'était un vrai plaisir. You've never seen those Cupid Dark Queens like they got them in New Orleans.
New Orleans.
Ooh, they love you like no one can.
Ah!
It makes you awful glad that you were born a man. Hey, if you ain't been there.
Been there.
Man, you ain't been nowhere.
Nowhere.
The living's lazy and the loving's fine.
It's so fine.
If you feel low down,
low down.
So help me, Hannah.
Hannah.
You should lose the blues and lose the oozy, oozy, Anna.
So get the lead.
Get the lead.
Out of your jeans.
Get the lead out of your jeans and hot put it down, hot put it down. Where? New Orleans.
New Orleans.
Lose. Stay a while.
Yeah.
Live it up.
Yeah.
Love it up.
Yeah.
Some style. We're down in New
Orleans. New Orleans.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.